Chemin d'histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Dérault. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 184e numéro de nos chemins d'histoire, le 25e de la 5e saison, et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Indravati Félicité. Bonjour à vous.
Bonjour Luc Dérault.
Indravati Félicité, vous êtes professeur à l'Université de La Réunion et vous publiez chez CNRS Éditions un livre intitulé « Le Saint-Empire face au monde, contestation et redéfinition de l'impérialité, 15e-19e siècle ». Aujourd'hui, dans nos chemins, nous cherchons à comprendre comment le Saint-Empire romain germanique s'est confronté au monde de Maximilien Ier, le prédécesseur de Charles Quint, jusqu'au temps napoléonien. Ce faisant, nous réfléchissons à nouveau frais et dans une historiographie foisonnante aux notions d'empire, d'impérialité et de modernité. Alors peut-être pour commencer, pour lancer notre conversation, Indravati Félicité, on pourrait partir de la première de couverture. Un extrait du globe du marchand de Nuremberg, Beheim, lieu de mémoire d'une Allemagne connectée au monde à l'époque moderne. C'est un extrait du globe de 1492, conservé à la Bibliothèque nationale de France. C'est un choix de l'éditeur, de votre part. Ça se mariait bien avec votre projet.
Oui, effectivement, c'est bien de commencer ce chemin d'histoire par la couverture, parce qu'en réalité, elle a une histoire. Hein. Enfin, cette image a une histoire. Cette histoire court tout au long de l'ouvrage, donc ce choix qui m'a été proposé par l'éditeur est tout à fait heureux, puisque le globe de Beheim est le résultat d'explorations qui sont menées à la fin du XVIe siècle. Cette amélioration de la connaissance géographique du monde est au service de marchands, des intérêts marchands, qui sont très importants dans les villes du Saint-Empire que j'évoque dans la première partie du livre, mais on constate une réappropriation au XVIIe siècle, et vous l'avez dit, le globe de Beheim devient alors un lieu de mémoire allemand qui symbolise un rapport particulier et précoce au monde en élargissement depuis la fin du XVIe siècle. Et enfin, on retrouve Beheim dans la troisième partie de mon ouvrage, puisqu'au XVIIIe siècle, les économistes allemands, qu'on appelle les caméralistes, mobilisent la mémoire de Beheim pour justifier la participation des Allemands à l'impérialisme.
Alors revenons peut-être au début de cette émission sur le projet de votre livre. Le titre de votre ouvrage est magnifique, « Le Saint-Empire face au monde ». Il est important pour nos auditeurs de revenir sur les mots. Vous dites le Saint-Empire, parfois en français on dit le Saint-Empire romain germanique, c'est l'appellation francophone habituelle je crois. En allemand on dit Heiliges Römisches Reich, parfois on dit Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ça c'est intéressant. On dit aussi Altes Reich. Les mots sont très importants parce que ça situe bien les choses, il faut revenir sur ça. Le travail sur les mots, ça court dans tout votre livre.
Il faut, quand on parle du Saint-Empire en France, faire un effort de, non seulement de traduction, mais aussi de translation, puisqu'effectivement, la traduction à elle seule ne rend pas vraiment compte du cheminement des idées, donc on revient au chemin d'histoire, hein, parce que ce Saint-Empire romain de nation allemande, si on traduit précisément la dénomination qui s'impose à la fin du Moyen-Âge, c'est Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, comme vous l'avez dit, ce Saint-Empire, il est raillé au XVIIIe siècle par un auteur Voltaire qui dit qu'il n'est ni saint, ni romain, ni bon, qu'on ne sait pas du tout ce que c'est finalement que cet empire. Donc l'idée à l'origine du livre, et le sentiment à l'origine du livre, c'était une frustration face à l'absence, la quasi-absence du Saint-Empire dans les études dites impériales, alors que son impérialité est inscrite dans sa dénomination. Donc vous avez raison, il faut revenir à la terminologie et l'expliciter.
Le Saint-Empire, c'est une construction politique particulière. Je le dis pour nos auditeurs, on y était revenu l'année dernière quand on avait fait une émission sur la guerre de 30 ans avec Martine Vrede. mais qui n'est pas interrogé ici dans sa genèse, on pourrait remonter au Xe siècle, hein, ou dans sa pluralité, dans sa diversité, dans ses frontières internes. Vous dites que ça, il y a une historiographie très dynamique sur le sujet. C'est un ensemble politique particulier, composite, etc. Ça, c'est assez bien connu. Mais plutôt ici, vous l'interrogez, vous l'avez dit, dans son impérialité et sa connexion au monde. Vous dites « saisir les contours de l'objet impérial ». Page 11. « Comprendre comment, au sein de cet ensemble politique situé au cœur de l'Europe, ont été pensées les modalités d'un rapport impérial au monde ». Le rapport impérial au monde, c'est ça qu'il faut qu'on explique à nos auditeurs et à nos auditrices.
Oui, effectivement, ce rapport au monde, il implique de considérer l'Empire non pas uniquement de l'intérieur, ce que je fais, hein, puisque on est obligé d'expliquer comment fonctionne cet Empire pour ensuite se tourner vers les possibles projections vers l'extérieur ou les possibles rapports avec l'extérieur. Mais j'adopte résolument une perspective interrelationnelle qui permet de voir l'Empire comme étant situé à l'intérieur d'un monde qui lui-même est en dilatation. C'est quand même la caractéristique de l'époque moderne pour l'Europe. Les modalités d'un rapport impérial au monde, ce sont les modalités, pas uniquement, alors là vous l'avez dit, l'historiographie est foisonnante sur le sujet, on a énormément d'études de micro-histoires sur les marchands, les missionnaires, les individus issus du Saint-Empire qui parcourent le monde et qui font qu'effectivement on a une présence germanique dans le monde à l'époque moderne qui est très importante. Mais ce qui m'intéressait dans cet ouvrage, c'était de revenir à la dimension impériale de ce rapport au monde, c'est-à-dire en quoi, par exemple, les institutions impériales telles que la diète d'Empire, dont je parle beaucoup dans la première partie, mais aussi l'empereur ou d'autres institutions pensent le monde, le comprennent et envisagent des actions pour orienter la manière dont le Saint-Empire peut se situer dans ce monde.
Rapport impérial au monde, ça veut dire insertion dans les relations diplomatiques du temps, ça veut dire évidemment tout le travail sur les flux commerciaux, les courants migratoires, les guerres, les échanges culturels de l'époque moderne. Il y a un ensemble de dimensions là. C'est tout cela que vous tentez d'approcher.
Exactement. Cette diversité des rapports au monde, en cela on pourrait dire que c'est une tentative. Alors le terme est un petit peu, comment dire, il a été utilisé de manière inflationnaire ces dernières années, mais c'est peut-être une histoire culturelle de cet ensemble politique qu'est l'Empire, c'est-à-dire que j'essaie de comprendre comment au-delà de chaque acte qui rend ce rapport au monde véritablement actuel, qui l'actualise, on peut imaginer la place que l'Empire a occupée, comment les contemporains l'ont imaginé et comment ils ont imaginé aussi les potentialités de cette place qu'occupe l'Empire dans le monde ou qu'il aurait pu occuper dans le monde. Alors c'est un petit peu jouer sur deux tableaux. C'est ce que le livre essaie de faire, c'est-à-dire que il y a la place que l'Empire a effectivement occupée parmi les autres empires, les rapports diplomatiques avec la Perse, par exemple, ou l'Empire ottoman, mais il y a aussi ce que cet empire aurait pu devenir. Et ça, c'est une question qui est très importante pour les historiens du Saint-Empire romain germanique, puisqu'il disparaît en 1806. Donc, c'est une question qui nous hante un petit peu, surtout quand on se rapproche du XVIIIe et du XIXe siècle.
Évidemment, là encore, les mots sont très importants. On a dit « rapport impérial ». C'est un terme français qui recouvre deux termes allemands. Vous le rappelez, ce qui relève du Kaiser et ce qui relève du Reich. Ça, c'est très important parce que c'est une source probablement de confusion, Indravati Félicité.
Oui, je vous remercie de rappeler cette distinction qui est gommée hein, par la traduction à travers l'épithète impériale. Effectivement, dans le Saint-Empire de l'époque moderne, on effectue une distinction très claire, mais qui n'est pas excluante entre les deux termes. C'est-à-dire que l'empereur, le Kaiser, est censé gouverner le Saint-Empire de concert avec ce qu'on appelle l'Empire et qui désigne l'ensemble de ses vassaux immédiats qui sont réunis à sa convocation jusqu'à la fin du XVIIe siècle, et ensuite c'est une réunion perpétuelle au sein de ce qu'on appelle la diète d'Empire. Donc c'est très compliqué parce que on peut imaginer qu'il y a une opposition entre les deux termes, on peut imaginer, certains historiens allemands l'ont fait, une complémentarité. Donc il faut distinguer, je pense, au départ, pour bien comprendre comment ce rapport au monde se met en place, il faut montrer que l'Empire peut agir indépendamment de l'Empereur, que l'Empereur agit également en son nom propre et indépendamment des États d'Empire, mais qu'en réalité, c'est ce que j'ai voulu montrer dans les épisodes diplomatiques que j'étudie, il n'y a pas forcément d'antagonisme. Et en même temps, c'est là que réside toute la complexité, mais aussi l'intérêt de la question, il peut y avoir des relations de type conflictuel très importantes.
S'intéresser à toutes ces questions, ça suppose de s'intéresser à l'incarnation du pouvoir impérial. La succession au trône impérial est élective, même si le trône est toujours occupé, à une exception près, par la maison des Habsbourg, mais c'est aussi s'intéresser à tous les acteurs qui incarnent l'intérêt des habitants du Saint-Empire pour l'étranger. C'est ça que vous montrez, donc il y a un jeu entre les différents acteurs, il faut bien avoir ça en tête quand on débute votre ouvrage.
Effectivement, il y a un jeu entre les acteurs et il me semble que dans l'historiographie, on a souvent procédé par parti pris, c'est-à-dire je vais m'intéresser à tel type d'acteur, donc à l'empereur ou au prince. Bon, c'était mon parti pris quand j'ai fait ma thèse, hein, donc je ne jette pas la pierre du tout hein, à cette orientation de l'historiographie. Ou bien on s'intéresse aux marchands, aux missionnaires, aux diplomates. L'objectif dans cet ouvrage, c'était de voir s'il était possible d'englober, d'avoir une perspective réellement englobante, impériale, et de faire ressortir le lien qu'il pouvait y avoir entre ces perspectives. Ces acteurs, ces perspectives, se situent à différentes échelles, et bon, là, c'est certainement l'influence de l'école française, hein, influencée par la géographie. On peut procéder par jeu d'échelle. Et je pense que c'est l'un des chemins qui étaient les plus évidents comme point de départ.
Vous l'avez dit tout à l'heure, et vous le dites avec force dans votre introduction, la place du Saint-Empire dans une histoire mondiale et impériale, pourtant en plein renouvellement depuis déjà longtemps, n'a pendant longtemps pas été saisie à sa juste mesure. Et l'introduction, comment dirais-je, essaye de revenir sur les ressorts de tout cela. Et notamment les ressorts historiographiques qui sont là à l'œuvre, qui sont puissants. Vous revenez sur quelques points et on pourrait un petit peu les détailler. D'abord peut-être la question de la précocité du thème national allemand qui paraît en contradiction avec la dimension impériale. On parlait tout à l'heure des mots, hein, il y a Deutsche Nation, ça c'est important. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment finalement cette force, cette précocité du thème national allemand a finalement empêché un peu de penser les choses en termes d'impérialité.
Cette précocité du thème national, donc aussi bien à l'époque où le thème émerge, hein, donc à la fin du Moyen-Âge, qu'ensuite dans l'historiographie, même la plus récente, elle a pu sembler signifier un repli du Saint-Empire sur un domaine national, alors qui à l'époque s'exprime de manière territoriale, hein, puisque la nation allemande à l'époque, ça n'est pas, elle ne correspond pas à un droit du sang, évidemment, hein, enfin même jusqu'à la fin du XIXe siècle, ça n'a pas de sens. Donc c'est un thème géographique, juridique, qui a semblé donc cantonner le Saint-Empire à sa dimension germanique. Et ça a été renforcé évidemment par l'historiographie du XIXe siècle. Ça a joué évidemment contre l'intégration du Saint-Empire dans les discours portant sur les empires nés à l'époque moderne, puisque ces empires étaient marqués au sceau de l'expansion. Hein, l'idée d'empire, à partir du XVIe siècle, elle est de plus en plus associée de manière étroite à l'idée d'universalisme, mais ça n'est plus l'universalisme chrétien. Hein, ça n'est plus la chrétienté, hein, c'est vraiment un universalisme qui se déploie physiquement également. Et c'est lié à toutes les évolutions que connaît l'Europe depuis la fin du XVe siècle. Donc, le Saint-Empire, qui désormais avait cette dimension nationale dans son nom même, et dont les institutions aussi étaient influencées par cette évolution nationale, ce pauvre Saint-Empire, du coup, il se retrouvait en position un petit peu de retrait par rapport à ces évolutions caractérisées par une expansion.
Autre point qui rend difficilement pensable les choses en termes d'impérialité, c'est toutes les interrogations qui portent sur l'étaticité du Saint-Empire, la Staatlichkeit, ça c'est important, qui a longtemps été jugée déficiente, une rationalité politique défaillante au moment de l'émergence de l'État moderne. Et là, tout ça est réactivé par des travaux, et c'est ça qui est passionnant, parce qu'il y a un foisonnement historiographique récent. On pense aux travaux de Georg Schmidt, mais aussi d'Heinz Schilling. Heinz Schilling qui voit dans le Saint-Empire un système partiellement modernisé, résultant d'une adaptation incomplète à l'émergence dans les principautés territoriales allemandes et les pays européens voisins de l'État de la première modernité. Donc là, il se distingue de Georg Schmidt qui voit dans le Saint-Empire un État impérial complémentaire. Mais voilà, il y a eu toute cette interrogation sur l'étaticité du Saint-Empire, qui est forte. Et évidemment, quand on a un projet comme le vôtre qui est d'interroger l'impérialité, ça rend les choses un peu difficiles.
Effectivement, on est obligé de se situer par rapport à ces réflexions sur l'étaticité, parce que l'autre caractéristique de la période moderne, qui semble aller de pair avec l'émergence d'empires modernes, alors là aussi, il y a les deux acceptions de l'adjectif moderne qu'on doit prendre en compte. On considère en général que l'époque moderne est l'époque d'émergence d'états-nations fortement structurées par des administrations rationnelles ou en voie de rationalisation qui vont permettre justement cette projection vers l'extérieur et l'émergence d'un rapport impérial au monde ou impérialiste. Or, le Saint-Empire ne voit pas ses institutions affecté par un phénomène de centralisation. Au contraire, on pourrait même dire, vous avez évoqué les travaux de Martin Vrede, et la guerre de 30 ans, qui est une césure importante, puisque les traités de Westphalie entérinent la légitimité de relations diplomatiques de chaque état d'empire avec des puissances extérieures. Donc on pourrait avoir l'impression que ce sont plutôt des forces centrifuges qui sont entérinées par ces traités de Westphalie au milieu du XVIIe siècle. Donc le résultat, c'est ce débat. Le Saint-Empire a-t-il été un État ? Ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'on ne s'est pas demandé si le Saint-Empire avait été un empire. La question n'est pas réellement posée par l'historiographie. Alors il y a quelques articles, Christoph Kampmann notamment, dit que c'est un empire nominal et pose la question de savoir si c'est uniquement sous cette dimension qu'on peut comprendre son impérialité, mais... Voilà, on pose la question de savoir si c'est un État, et vous avez cité ce titre très long, il le reconnaît lui-même, de l'article de Heinz Schilling sur l'étaticité de l'Empire, où il parle d'adaptation incomplète. Donc pour moi, là, il y a quand même un présupposé qui est teinté de téléologie, et que j'essaie de réviser.
De déconstruire, d'une certaine manière.
Oui, alors je ne sais, c'est peut-être, je vous remercie d'utiliser ce terme. Oui, j'essaie de comprendre en quoi l'adaptation n'est pas la modalité selon laquelle peut se penser l'évolution politique du Saint-Empire.
Dans le travail que vous faites, dans cette réflexion sur l'impérialité, il y a évidemment les pesanteurs du passé, les pesanteurs historiographiques dans l'examen du rapport impérial au monde. L'héritage et l'instrumentalisation wilhelminienne au XIXe siècle, au début du XXe, et national-socialiste, tout ça c'est très pesant, parce qu'évidemment le Saint-Empire a été capté par ces courants politiques-là, et de manière nauséabonde parfois. Donc vous avez affaire avec tout ça, et ça doit être particulièrement, j'imagine, difficile de penser l'impérialité en dépit ou au-delà de toutes ces traditions du 19e et de la première moitié du 20e siècle, Indravati Félicité.
Effectivement, il faut à la fois se référer à cette tradition qui est composée de plusieurs strates, et il faut pouvoir s'en détacher. C'est la raison pour laquelle le livre comporte de très nombreux passages historiographiques, parce qu'en réalité, l'histoire du Saint-Empire face au monde a été beaucoup racontée, et depuis le XVIe siècle. Donc, il est nécessaire, pour le coup, de déconstruire tous ces tableaux. On peut dire qu'on a des successions de tableaux qui se superposent, qui dialoguent entre eux. Quand on arrive au XVIIe et encore plus au XVIIIe siècle, on est face à une superposition de discours qu'il est nécessaire vraiment de resituer, dont il est nécessaire de comprendre la profondeur historiographique et aussi l'effet psychologique recherché à chaque époque. Donc c'est en ça que c'est une histoire culturelle. Alors ce qui est important dans l'historiographique, je dirais, contemporaine, c'est qu'il y a eu deux regards importants depuis la structuration de l'histoire en discipline universitaire. C'est l'époque wilhelminienne que vous évoquez, avec la nécessité de doter l'Allemagne d'un passé qui l'aurait prédisposé à une expansion coloniale, et donc revenir sur ses littoraux, sur la force de sa marine, ce qu'on appelle die Deutsche Seemacht, la puissance maritime. Et ça, c'est très important, parce qu'effectivement, on va mobiliser les débuts de la navigation, la circumnavigation, etc. Et d'autre part, la question de l'Empire, qui est réactivée au moment de l'avènement du Troisième Reich, qui se dit Troisième Empire, évidemment en référence à deux empires précédents. Donc le Premier Empire, le Saint-Empire, est mobilisé de manière assez contrastée, puisqu'il y a un regard dédaigneux sur cet empire qui n'a pas été un empire colonisateur avec des empereurs qui n'étaient pas guidés par un esprit de conquête. Donc effectivement, ce sont des historiographies lourdes qui ont une épaisseur elle-même historiographique, et j'essaie dans le livre de revenir à la fois à ces discours et aux sources de l'époque moderne.
Et vous le rappelez aussi dans l'introduction, ça c'est un point qui peut paraître évident, mais finalement il faut toujours dire les évidences. Une confusion a souvent été faite entre impérialisme et impérialité. Il faut rappeler que, évidemment, la compétition impériale pour les colonies du Nouveau Monde et pour le commerce a existé, que le Saint-Empire n'a pas forcément été pionnier dans ces domaines, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas penser l'impérialité. Encore une fois, troisième fois qu'on le dit, le sens des mots.
Vous avez raison, parce que quand on parle d'impérialistes au XVIIe siècle, dans l'Europe du XVIIe siècle, on parle de ceux qui sont dans le camp de l'empereur. Donc le terme est utilisé, mais voilà, on serait bien dépaysé en lisant un texte datant, par exemple, des guerres de l'époque, des guerres de Louis XIV. On trouverait le terme impérialiste, les Français l'utilisent, mais voilà, la définition est très claire, ce sont ceux qui sont dans le camp de l'empereur. Donc il faut essayer de comprendre comment on est passé d'une époque où l'impérialisme était cantonné à ce sens très réduit, à une période où l'impérialisme devient le terme qu'on connaît aujourd'hui. Et là, c'est très compliqué. Enfin, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut à la fois évoquer le sens qu'ont les mots dans les sources et le sens que l'historiographie leur a donné. Ce sont deux niveaux très différents. L'une des idées du livre, c'était d'essayer de montrer comment le lexique impérial change au cours de la période moderne. Comment est-ce qu'on passe d'un adjectif impérial qui est beaucoup plus intéressant à analyser que le substantif empire, je trouve, dans les sources. Comment est-ce qu'on passe d'un moment où l'adjectif impérial désigne de façon assez consensuelle ce qui est relatif à l'empereur ou à l'empire, à un autre moment où ce terme va prendre un sens différent, va voir son acception se démultiplier et même se retourner contre ce qui concerne l'Empire et l'Empereur.
Sous l'influence de l'extérieur aussi.
Exactement, c'est l'influence de l'extérieur là qui joue à plein.
On l'a compris, votre livre est très scalaire, mais vous jouez aussi sur les variations chronologiques. Et là, vous avez une ambition chronologique importante, puisque vous allez de la fin du XVe jusqu'au début du XIXe siècle, la disparition de l'Empire en 1806. Vraiment, c'était vraiment dès le départ votre ambition de brasser comme ça 3 gros siècles, de la réforme à la révolution et à Napoléon.
Au départ, l'ambition était plutôt sémantique. Donc, je ne suis pas partie avec un projet vraiment diachronique comme ça en tête. Et je vous avoue que je ne pensais pas beaucoup au XVIIIe siècle, parce que je le connaissais moins après mes travaux de thèse. Et puis, il me semblait que la question de l'impérialisme était un petit peu périphérique. Mais c'est vraiment en revenant aux sources, en faisant des recherches dans les fonds d'archives, qu'il m'a semblé qu'en réalité, il y avait un lien et que cette évolution sur les 3 siècles, elle méritait d'être étudiée dans un seul mouvement. Donc le livre est né vraiment de la recherche documentaire et de la lecture des sources.
Et dans un dialogue toujours très important, et pas seulement dans l'introduction, avec vos collègues historiens, historiennes, il y a énormément de références dans votre livre, enfin voilà, et des références qui pour les historiens francophones sont peut-être moins connues. Donc ça vraiment, vous dialoguez à distance constamment, enfin ça c'est vraiment très fort dans votre livre.
Effectivement, ce qui m'a semblé aussi très intéressant, c'est que ce regard extérieur sur le Saint-Empire, il était peut-être différent en fonction du lieu d'où on se situait en tant qu'historien. Donc, un historien allemand ressentira peut-être davantage la pesanteur politique des discours sur la nation, sur l'impérialisme, sur ces objets très lourds quand on considère l'histoire allemande et la manière dont l'historiographie allemande s'est construite après la Deuxième Guerre mondiale ou reconstruite. Pour un historien allemand, c'est peut-être un peu plus difficile de considérer un empire allemand comme acteur des relations extérieures que pour un historien anglais, une historienne française, une historienne des États-Unis, une historienne italienne. Et effectivement, on constate que ces prismes nationaux sont prégnants, mais qu'il y a eu ces dernières décennies énormément de contacts entre les historiens, énormément de forums. Et on a une école française qui est très dynamique autour de Christophe Duhamel, de Christine Lebeau, qui a permis de revisiter le Saint-Empire, notamment à travers le prisme spatial. Donc je parlais de l'école française, hein, ça explique certainement beaucoup d'orientation du livre. Mais vous avez aussi une école états-unienne qui va être plus sensible au prisme de la question de la réforme. Donc voir un petit peu la polysémie de cette notion de réforme, de reformation, qui va l'élargir aussi à tout ce qui touche au développement du Saint-Empire jusqu'au XVIIIe siècle. Donc effectivement, il m'a semblé que ce dialogue devait avoir une place importante parce que finalement, mon cheminement s'explique aussi par la confrontation et la coopération avec toutes ces historiennes et tous ces historiens.
Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desros s'entretient avec Indravati Félicité, professeur à l'Université de la Réunion. Indravati Félicité qui publie chez CNRS Éditions un livre intitulé « Le Saint-Empire face au monde, contestation et redéfinition de l'impérialité, 15e-19e siècle ». Alors, dans la deuxième partie de notre émission, on peut revenir sur quelques points saillants du livre. Il y a 3 parties qui sont très clairement présentées. Alors, dans la première partie du livre, vous revenez sur la manière dont le Saint-Empire pense le monde. Ça passe notamment par l'analyse de la diplomatie conduite en direction de l'Orient. Peut-on parler d'une diplomatie impériale germanique? Vous interrogez sur ce point en convoquant l'exemple des relations germano-persanes, notamment l'ambassade persane de 1600 et l'ambassade de Gottorp en Perse en 1635-1639. C'est intéressant de de revenir sur ces exemples parce qu'ils permettent de comprendre que la diplomatie, vous le disiez un petit peu dans notre première partie, ne se limite pas au périmètre d'action de l'empereur. Ce n'est pas non plus la somme des diplomaties des membres de l'Empire. Elle ne saurait non plus, dites-vous encore, se ramener à un fonctionnement complémentaire entre les uns et les autres. Enfin, c'est passionnant, ça vous permet à travers ces exemples de réfléchir à l'idée d'une diplomatie impériale. Est-ce que ça a du sens de parler de diplomatie impériale germanique ?
Je trouve aussi que cet épisode est passionnant et ce qui est intéressant, c'est qu'il est connu. Le dossier persan, on va dire, est un dossier connu et ses relations précoces hein, avec la Perse safavide, début XVIIe siècle, donc l'Empire et la Perse, ont donné naissance ensuite à un orientalisme allemand sur lequel l'accent a été mis dans les études littéraires. Tous les germanistes connaissent Olearius, qui est le secrétaire de cette ambassade de Gottorp qui va en Perse, donc qui vient du Holstein, hein, dans le nord de l'Empire, à la frontière avec le Danemark, pour aller à la cour du chat en 1635. Moi, ce qui m'intéressait dans cette relation à la Perse, c'était, alors évidemment, l'aspect culturel qui est connu, puisque plusieurs traductions d'ouvrages persans sont la conséquence directe de cette ambassade, du retour de cette ambassade en Allemagne. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'était de comprendre pourquoi est-ce qu'un duc qui règne sur un territoire somme toute modeste hein, envoie une ambassade ? Comment cette ambassade peut ensuite avoir un retentissement, une postérité ? Et enfin, est-ce que cette ambassade a une portée véritablement politique ? Et qu'est-ce que ça signifie à l'échelle de l'Empire ? Ce qui m'a étonnée, c'est qu'effectivement, les sources donnaient une image très politique de cette initiative diplomatique, qu'on était dans l'histoire des relations internationales et qu'on trouvait des échos aussi aux archives de Vienne, de cette ambassade. Donc on pouvait établir un lien. Et en suivant les archives, il m'apparaissait que cette ambassade était moins une ambassade qui permettait de voir la diplomatie d'un prince allemand comme complétant l'échelon impérial que comme un moment où tous les acteurs de l'Empire mettent en réseau, sont mis en réseau. C'est-à-dire que on a une diplomatie du duc de Gottorp. Cette diplomatie est mise au service de la puissance impériale. À travers l'aspect économique, il s'agit aussi de dynamiser l'un des points d'entrée dans l'Empire et en Europe. Donc on a plusieurs échelles qui se superposent et on a aussi la volonté, hein, explicite dans les sources, de prendre une initiative diplomatique depuis le Gottorp, mais pour servir l'Empire. On peut dire que ça n'est pas le registre de la complémentarité qui est là mobilisé, mais c'est davantage une façon de faire apparaître l'Empire au moment où l'un des points de l'Empire est en relation avec l'extérieur.
Mais ça veut dire que forcément, les objectifs des uns et des autres, des princes, de l'empereur, doivent converger quand même, doivent être les mêmes, enfin, ou en tout cas proches. Parce que sinon, ça ne marche pas, enfin.
Oui, alors vous avez tout à fait raison, et je vous remercie de me ramener à ce point de départ finalement de la réflexion. Vous avez tout à fait raison, parce qu'en réalité, enfin, à l'origine de mon intérêt pour ces initiatives diplomatiques en direction de la Perse, il y a toute une historiographie de la diplomatie des princes d'Empire qui a souvent été vue comme antagoniste à celle de l'empereur, c'est-à-dire qu'on s'est penché sur les relations avec Louis XIV, qui était dirigé, hein, la Ligue du Rhin, à la fin du XVIIe siècle, donc des princes allemands qui s'allient à un souverain étranger contre l'empereur, ou pour avoir une protection contre l'empereur. Et puis ça culminerait au début du XIXe siècle avec l'autre Ligue du Rhin, celle qui unit des princes allemands à Napoléon. Et donc, on a souvent vu cette diplomatie des princes allemands comme étant opposée aux intérêts de l'empereur et comme étant une force qui va mener à la dissolution du corps impérial. Donc, j'ai cherché à trouver des exemples qui permettaient de relativiser cette fonction qu'on avait assignée à la diplomatie des États d'Empire. Et la Perse apparaissait là comme un partenaire intéressant parce qu'il y a des initiatives diplomatiques, elles sont connues, elles ont un retentissement, mais la Perse est éloignée. La Perse est considérée de façon unanime comme une alliée qui permettrait de prendre à revers l'ennemi commun qui est l'Empire ottoman. Et donc, on a une forme de consensus qui s'exprime à travers cette relation avec la Perse. Donc, effectivement, hein, là, il y a une convergence d'intérêts. Et puis l'intérêt commercial, hein, la route de la soie, essayer de capter hein, le trafic des soies de Perse, qui fait apparaître cette relation diplomatique comme étant une autre manière de considérer la diplomatie qui est menée dans l'Empire par différents acteurs, et notamment les princes.
Mais c'est pas toujours le cas, cette convergence. Il y a parfois divergence, non, j'imagine.
Exactement. Il y a parfois divergence, hein, et c'est ce qu'on voit au moment des débats sur, par exemple, la neutralité des États d'Empire quand l'empereur est en guerre contre le roi de France ou contre d'autres souverains, ou quand il y a des conflits entre des États d'Empire et des États étrangers. Par exemple, lorsque les villes de la Hanse sont en conflit avec l'Angleterre autour de 1600, on voit très bien que d'autres États d'Empire, hein, des principautés du Nord, essaient de reprendre la place des villes de la Hanse dans les relations commerciales, donc de profiter de ce conflit pour se poser en porte d'entrée des marchandises anglaises sur le continent. Donc effectivement, il n'y a pas toujours convergence, mais il y a parfois convergence. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça que j'ai voulu faire ressortir, c'est cette fluidité des enjeux diplomatiques et des relations extérieures. On ne peut pas uniquement considérer qu'une diplomatie qui est menée depuis les territoires qui font l'Empire est en concurrence avec la diplomatie impériale.
Autre aspect saillant de l'ouvrage, dans la deuxième partie, tous les modes de démarcation vis-à-vis d'un extérieur qui sont mobilisés par les contemporains pour définir les limites de l'Empire. Et la question singulièrement des limites spatiales, vous y revenez, la question de la frontière est évidemment essentielle et elle renvoie, vous dites à un moment, c'est à la page 208, à la question fondamentale de ce qu'est l'Empire et de qui est l'Empire. Et vous avez trouvé un bon observatoire avec le littoral nord, observer les dynamiques frontalières, poser la question de l'administration de la frontière et de ses acteurs à partir de cet exemple-là. C'est ce que vous faites notamment dans la deuxième partie, Indravati Félicité.
Oui, la question de la démarcation est très importante si on s'intéresse déjà à la terminologie, puisqu'il s'agit aussi d'une opération de définition, donc finis, hein, les limites. Les limites extérieures de l'Empire, elles sont évoquées dans l'historiographie, hein, donc il y a une attention particulière qui est portée sur les frontières méridionales plutôt et orientales, hein, avec évidemment le front ottoman et l'évocation de sociétés de la frontière, de phénomènes de coopération dans ces espaces. Mais le littoral nord est relativement absent, hein, des études sur la frontière. Alors là aussi, hein, les sources sont intéressantes parce qu'elles permettent, encore une fois, d'examiner cette fluidité des phénomènes alors d'entrée, de sortie de l'Empire. Hein. Est-ce qu'on a conscience d'entrer dans l'Empire quand on arrive, quand on accoste sur ce littoral nord? Est-ce qu'on sort de l'Empire quand on prend un bateau à Hambourg ou dans une ville que j'étudie beaucoup dans la deuxième partie, Emden, qui est une double frontière parce que c'est le littoral nord, donc c'est la mer du Nord, mais c'est aussi la frontière avec les Provinces Unies qui, à l'époque, sont dans une situation assez complexe. Cette question du littoral nord, elle permet justement de montrer en quoi l'Empire, à certains moments, apparaît, par exemple au moment où le franchissement d'une frontière fait qu'un litige va opposer plusieurs instances de démarcation ou de délimitation de la frontière. Donc, on a l'exemple de ce port d'Emden, justement, où arrive, là encore, hein, une délégation persane. Donc, j'ai évoqué ce dossier persan que, j'ai morcelé à dessein parce que je ne voulais pas refaire une histoire des relations germano-persanes. Donc, on a cette ambassade qui arrive en 1600 par la ville d'Emden et cette arrivée fait apparaître tout un imbroglio constitutionnel et juridique sur la question de savoir qui est habilité à accepter que ces étrangers entrent sur le territoire impérial, qui sait les reconnaître, donc qui dispose des technologies de l'identification de la reconnaissance, qui peut autoriser ensuite la poursuite du voyage à travers le territoire impérial et qui est censé transformer cette arrivée en opération proprement diplomatique en accueillant la délégation. Donc là, on a tout un ensemble de questions qui révèlent l'importance des acteurs et aussi de la définition spatiale de la frontière, mais aussi, évidemment, la définition juridique. Donc, toutes ces strates juridiques, géographiques, sémantiques se superposent pour faire de la frontière un objet qui n'est non plus défini de manière positive, hein, au sens juridique, mais qui va se définir au gré des interactions entre les différents acteurs qui sont parties prenantes dans le processus, au départ très simple, hein, d'accueil d'une délégation étrangère ou d'un groupe d'étrangers qui mettent le pied sur le sol allemand.
Oui, c'est ça. Alors, ce qui est passionnant dans cette partie, c'est qu'on voit aussi, évidemment, le rôle d'un certain nombre d'acteurs sur le terrain, aussi des juristes, hein, vous le disiez, des publicistes. Vous vous intéressez à un moment au traité de Jakob Karl Spener, hein, traité de 1723. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi, à titre d'exemple, vous avez saisi ce texte? Qu'est-ce qui vous intéressait?
Alors, ce texte m'a semblé très intéressant parce que la perspective de Spener change justement par rapport à un certain nombre d'ouvrages. Spener interroge véritablement le droit d'empire. Il ne présente pas la constitution impériale comme un ensemble qui serait à appréhender d'un point de vue donc du positivisme juridique, c'est-à-dire un ensemble de règles qu'il faut suivre et qu'on va essayer d'expliquer, mais il confronte la constitution impériale à la réalité de l'empire tel qu'il le connaît en ce début de XVIIIe siècle. Et donc il revient à la fois sur l'expérience du XVIIe siècle, qui est cruciale hein, pour l'évolution territoriale, les évolutions territoriales en Europe, parce qu'il s'agit vraiment d'une période où la conception du pouvoir politique s'enrichit d'une visée véritablement géographique, c'est-à-dire il faut dominer le territoire. Ça n'est plus une conception qui est surtout juridique, avec l'idée de maiestas et l'idée qu'il y a le pouvoir de juger hein, sur un ensemble de sujets, mais c'est l'idée que le pouvoir s'exerce sur un territoire. Et donc cette question des frontières. Et Spener m'a semblé être au bout de cette évolution, mais en même temps à la naissance d'une autre manière de considérer la constitution de l'Empire, qui est l'idée, et on la retrouve ensuite chez un très grand juriste qui est très étudié aujourd'hui encore, hein, qui est Johann Jakob Moser, que j'utilise beaucoup, mais à qui je ne consacre pas la même place qu'à Spener, parce que Spener me semble au début de cette évolution qui interroge véritablement le droit d'Empire. Donc qu'est-ce que c'est que le territoire impérial? Et à chaque fois, il a une approche très analytique, puisqu'il va distinguer différents types de territoires qui font l'empire, mais aussi une approche pragmatique. Qu'est-ce qui se passe sur les différents types de territoires? Qui a le pouvoir? Qui l'exerce réellement? Et il a même une approche un peu prospective. Hein. Qu'est-ce qui pourrait se passer si tel ou tel acteur agissait de telle ou telle manière? Donc les états d'empire qui sont à la frontière, que font-ils? Comment agissent-ils? Et qu'est-ce qui se passerait s'ils n'étaient pas solidaires de l'Empire? De la même manière, l'empereur. Que fait-il? Quel est son pouvoir? Et quelles sont les potentialités de ce pouvoir?
Avec le traité de Spener, on est déjà au XVIIIe siècle. On est obligé d'aller à grandes enjambées. Le XVIIIe siècle, c'est le terrain d'étude de la troisième partie. Alors ça, c'est passionnant parce que, d'ailleurs, l'intitulé de la troisième partie dit beaucoup de choses. Un anti-impérialisme allemand au XVIIIe siècle, point d'interrogation, le vieil empire parmi les empires, le vieil empire face aux jeunes empires. Et peut-on, à un moment vous le dites, finalement, peut-on penser l'expansion européenne, c'est le titre de votre chapitre 8, depuis l'Empire. Et là, vous revenez, quel est l'objet de cette troisième partie? Vous le disiez que vous n'aviez pas pensé au départ aller vers le XVIIIe siècle et finalement, ça occupe un tiers de l'ouvrage. Là, dites-nous un peu le propos général de cette troisième partie.
Oui, alors là encore, hein, ce sont les sources évidemment qui ont dirigé mon travail dans cette direction. Il apparaît que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais l'historiographie est en train de changer. Hein, au moment où j'ai travaillé à cet ouvrage, les compagnies des Indes dites autrichiennes n'avaient pas attiré véritablement l'attention des historiens de l'histoire globale de la première mondialisation. On les voyait comme des objets assez exotiques, de petites compagnies arrivées tardivement sur le terrain global. C'est en train de changer très rapidement, ça a changé ces 3-4 dernières années. Donc cette question devient cruciale, c'est-à-dire comment est-ce que depuis l'Empire, on a pu penser un rapport impérial-impérialiste, c'est le siècle où les deux adjectifs commencent à se confondre, au monde. Alors, au XVIIIe siècle, ce qui est très important, c'est la question de l'expansion commerciale et des modalités de cette expansion commerciale qui n'est pas encore véritablement dominée par l'esprit de conquête. Mais la question de la conquête est également posée à travers les expériences ibériques en Amérique. Donc, la question était de savoir, est-ce que ces idées rencontrent un écho dans le Saint-Empire ? Et effectivement, il semble que, d'après les sources et d'après la production littéraire, la production des spécialistes de l'économie du XVIIIe siècle, mais aussi les productions venant de l'entourage impérial, les réflexions qui sont menées dans l'entourage des empereurs, on ressent une certaine frustration à l'égard de ce qu'on commence à pouvoir appeler l'expansion européenne. Il semblerait que, notamment, les marchands allemands, les marchands de Hambourg, par exemple, se sentent exclus de cette dynamique qui touche quand même une grande partie de l'Europe et notamment de l'Europe maritime. Hambourg, qui est quand même un port très important, se retrouve exclu pour différentes raisons des trafics en direction de ce qu'on appelle les Indes orientales. Donc j'ai essayé de montrer dans la troisième partie quelles étaient les contraintes auxquelles on était confronté quand on était un marchand allemand à l'époque et qu'on voulait faire du commerce avec les Indes, donc avec l'Inde, la Chine, l'Afrique et les Amériques. Et c'est une histoire qui touche aussi évidemment aux représentations, à la psychologie et aux ressentis de cette époque.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de l'ouvrage, il y a une réflexion finale sur la politique maritime des Habsbourg à partir de 1775, et vous dites cette politique permet d'entrevoir la possibilité, et là on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure, d'une convergence entre impérialité germanique et impérialisme. Il y a une forme peut-être de basculement, je ne sais pas, dans cette fin du XVIIIe siècle.
En tout cas, une interrogation forte qui commence assez tôt déjà chez certains juristes, qui pose la question de savoir mais qu'est-ce qui nous interdit de faire du commerce avec les puissances non européennes ? Qu'est-ce qui nous interdit d'avoir des comptoirs en Afrique, en Inde ? Et il y a une tentative, alors c'est l'ultime tentative des Habsbourg en tant qu'empereur du Saint-Empire romain germanique, après c'est une autre histoire, l'Autriche-Hongrie, donc mais avec Marie-Thérèse et son fils, Joseph II, on a à partir de 1775 une dernière chance qui est donnée à un aventurier, Wilhelm Boltz, ou Guillaume Boltz, qui propose la création d'une compagnie des Indes. Ça n'est pas une première, mais quand il arrive en 1775, il réussit à convaincre. Ce qui n'est pas évident, parce qu'il y a de fortes réticences dans l'entourage impérial au sujet de ces compagnies. Et Boltz, ce qui est intéressant et qui montre que l'Empire est pris dans toutes ces dynamiques de la première mondialisation, il est lui-même un transfuge de la compagnie des Indes orientales britannique. Donc il va apporter ce savoir-faire qui est déjà impérialiste au sens où nous l'entendons, il va le mettre au service de la couronne impériale et il dispose du pavillon impérial et il a une charte qui lui est octroyée par l'impératrice reine Marie-Thérèse pour nouer des relations avec des puissances africaines et asiatiques, mais aussi pour installer des comptoirs ou même pour prendre possession de certains territoires. Donc on a là tout un jeu sur l'ambiguïté de ces chartes qui sont impériales de l'impérialisme tel que le conçoit Bolt, ayant fait ses classes au sein de la Compagnie des Indes britanniques, et aussi de la rivalité impérialiste qui commence à être très forte en Inde notamment, où Bolt signe un traité. Et ce qui est intéressant quand on considère les traités signés, avec donc deux rois du Mozambique, mais aussi un souverain indien, c'est de voir que la terminologie est employée dans toute son ambiguïté. Marie-Thérèse va pouvoir être désignée comme souveraine d'Allemagne à un moment donné, ou à un autre moment comme impératrice. On va considérer que le comptoir concédé sur la côte du Mozambique à Marie-Thérèse relève désormais de sa souveraineté, donc ça c'est dans le traité qui est signé, mais comme on n'a pas le traité dans d'autres langues, on ne sait pas du tout ce que reflète cette notion de souveraineté. Donc est-ce qu'on est aux prémices d'une opération de colonisation, ou bien est-ce qu'il s'agit juste... Alors dans les faits, hein, si on est pragmatique, il est clair que Bolt n'envisage pas encore une colonisation de type ibérique dans les Amériques. Néanmoins, l'ambiguïté des termes est là, et on a, je pense, la naissance d'un rapport particulier au monde qui n'était pas celui du XVIIe siècle.
On arrive au terme de cette conversation, Indra Vati Félicité, la question traditionnelle dans nos chemins d'histoire. Ce livre est publié, fruit de nombreuses années de recherche et d'écriture. Quels sont vos chemins d'historienne pour les semaines, les mois, les années à venir ? Dites-nous peut-être si vous avez un cap déjà.
Explorer le Saint-Empire depuis l'extérieur reste quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et bon, j'ai deux projets de recherche hein, qui m'intéressent beaucoup. Alors le premier, ce serait de revenir sur ce que signifie la diplomatie dans le contexte de l'Empire. C'est une question que j'aimerais explorer à nouveau à travers ces ambassades en direction de la Perse, parce que les archives sont très volumineuses. Et puis, le deuxième projet de recherche, ce serait de montrer en quoi l'exploration de la place du Saint-Empire dans la mondialisation permet d'entendre une autre voix au XVIIIe siècle, c'est-à-dire l'idée que la mondialisation n'est pas un processus inexorable qui ne touche pas toutes les parties de l'Europe de la même manière au XVIIIe siècle, mais qu'il y a des points, des enclaves, des points aveugles, des endroits qui ne sont pas concernés par ce phénomène de mondialisation. C'est très général, mais ce sont des projets nés, évidemment, du livre.
Magnifique. L'histoire continue. Merci beaucoup, Indra Vati Félicité.
Merci à vous.
C'est ainsi que se termine le 184e numéro de Nos Chemins d'Histoire, le 25e de la 5e saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie d'Indra Vati Félicité, professeure à l'Université de La Réunion. Indra Vati Félicité qui publie chez CNRS Éditions un livre passionnant, vous l'aurez compris, un ouvrage intitulé « Le Saint-Empire face au monde, contestation et redéfinition de l'impérialité 15e-19e siècle ». Toutes nos émissions sont disponibles sur les plateformes de podcast et sur le site chemindhistoire.fr avec un S à chemin. À très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous.